RMC Entre les Poteaux,
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous et bienvenue Entre les Poteaux. On est là même quand il fait chaud, même si on a la fin de la période caniculaire. Là, on va retrouver les poteaux affûtés comme jamais. Je l'espère pour la rentrée, parce que là, c'est dans un petit peu plus de deux semaines, hein, le top 14 va reprendre, je rappelle, le 5 septembre. Ce sera évidemment sur les antennes de RMC, votre radio du rugby. Est-ce que chef Templier, pendant l'été, s'est affûté?
Salut. Bonjour. Wilfried. Toujours.
C'est vrai?
Toujours.
Ben genre, vas-y, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé voir une équipe de rugby, t'as fait un stage avec eux, fait le stage commando de Christophe Furios, là, chaque année. Je me rappelle, il était venu l'année dernière nous le raconter.
Tu sais, s'il me tarde, moi. Oh, il me tarde, là, au prix du top 14. Non, bien sûr, toujours, on court un peu, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Deux, trois fois par semaine, c'est le meilleur moment, là, les matins, là. Matin, faut se lever un peu. Ça, le problème, quand on est en vacances, faut se lever.
Ça te manque?
Comment il fait trop chaud?
Ça te manque, le top 14, là? Ça te manque,
ça va arriver tranquille. Ça va arriver tranquille. On va s'enfoncer dans cet automne et cet hiver avec plaisir, dans les stades, la pluie, le froid.
On rappelle que le bouclier de Brennus, c'est chez toi, hein, actuellement. Il aurait pu être chez Julien Landry, hein. Ça se joue à pas grand-chose à Montpellier. Salut Julien.
Salut messieurs, salut à tous.
Julien qui bosse déjà, hein. Il est déjà allé voir les Codulo, les Saint-André.
Ça bosse dur. J'ai repris le travail, c'est dur. Hein.
Allez, on repart à fond.
Ah ouais, Philippe Saint-André.
On ne s'est jamais arrêté, les poteaux ne sont pas arrêtés de l'été d'ailleurs.
Les poteaux ne sont pas arrêtés de l'été.
Il y a eu un petit quiz pour ceux qui peuvent encore le télécharger.
Bah, les gens se sont régalés.
C'est qui l'a gagné dans la bande des poteaux, mais il y a un petit quiz, il y a un peu de suspense si vous voulez.
Écoutez, un peu de triche.
Qu'est-ce que tu as vu, tiens, sur les équipes en reprise, là, mon cher Julien? Ça bosse dur, là? Tu vois des choses qui t'interpellent? Ça ressemble à quoi, une reprise?
Non, il y a une nouvelle chose à la mode, c'est les entraînements dirigés. De plus en plus d'équipes en font. Donc, par exemple, Montpellier a fait venir Narbonne à Montpellier, ce qui m'a offert des grandes rencontres entre Jacques Delmas et Bernard Laporte, où ils se sont rappelés des souvenirs de Toulon.
C'était assez mémorable. C'est terminé.
Les grandes gueules du sport.
Mais il y a beaucoup d'entraînements dirigés où, du coup, ils font de l'entraînement mais à haute intensité et sans se blesser entre eux, et c'est plutôt la mode de la saison. J'en ai vu beaucoup d'équipes faire ça, et beaucoup d'équipes qui sont montées à la montagne, au frais. Là, les Montpelliérains sont à Tignes, beaucoup ont été à Serre-Chevalier, aussi à La Plagne, où les montagnes mettent aujourd'hui des installations haut niveau pour les équipes qui ont évidemment, t'en parlais tout à l'heure, chercher de la fraîcheur dans cet été caniculaire.
Tu m'étonnes. Moi, j'étais en Bretagne en vacances, j'ai vu des terrains de rugby partout, près de Vannes, hein, qui retrouve le top 14. Mais par contre, là, c'est bien parce qu'ils pouvaient jouer, parce qu'il fait pas très chaud là-bas, par exemple. On se prépare mieux en Bretagne.
Il y a du rugby en Bretagne, à Vannes, à Rennes, à Saint-Malo, il y a du rugby, bien sûr.
On aura l'occasion d'en parler cette saison. Je te voyais pas très convaincu là des nouvelles méthodes de reprise.
On fait des entraînements dirigés, on se blesse pas, mais je sais pas comment ils font, Julien. D'accord,
j'ai l'impression que j'ai eu le sentiment qu'ils se rentraient dedans, mais qu'il y avait de l'impact, mais qu'ils arrivent à se ménager. Il y a pas la petite guéguerre de dire il est à ma place, il faut que je lui pique. Je trouve que c'était intéressant de ce que j'ai vu contre Narbonne la semaine dernière.
C'est un peu comme entre les poteaux, tu vois. Il y a personne qui veut te piquer la place à Wilfried Templier. On est là, on respecte les statuts, les chefs. On va pas essayer de te blesser. Tout va bien, t'inquiète pas. Hein, on te met du papier bulle pour faire ce podcast et que tu termines de la meilleure façon possible. Les poteaux aujourd'hui, ce qui va nous agiter, c'est ce qui s'est passé dans le marché des mutations, hein, parce que c'est comme ça. Je rappelle qu'on dit dans le rugby, on dit pas les transfert, sinon...
Mercato.
On dit le mercato.
Allez.
Ah bah alors, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui, les poteaux vont noter le mercato du top 14, qui reprend donc dans moins de 3 semaines, parce qu'il y a eu des mouvements, et on va en parler tout de suite. Le mercato du rugby, on va en parler tout de suite, mais avant de parler de ce qui va agiter cette saison, les équipes, comment les effectifs ont évolué à Toulouse, à Bordeaux, au Stade Français, il y a eu quelques transferts importants, à Perpignan même, il y a eu un tremblement de terre, les amis, au cœur de l'été, qu'on n'avait pas vu venir, franchement, on n'avait pas vu venir, on est d'accord les amis, Thomas Ramos, a décidé de partir au Racing 92, quitter... la mère patrie presque.
Est-ce que lui-même l'avait vu venir?
On rappelle, c'est pas pour cette saison. Il va encore faire une saison entière avec les champions de France en titre. Et ce sera pour la saison prochaine. Donc on le verra sous le maillot ciel et blanc. C'est un séisme.
Wilfried. C'est un séisme. C'est pas souvent que. Non, mais c'est surtout un cadre toulousain qui quitte le club, qui va dans un club concurrent. Parce que le Racing, on rappelle, était demi-finaliste. Bon, ça lui a coûté cher face à Toulouse en demi-finale, mais le Racing est un ambitieux du top 14. Donc c'est quand même très très rare qu'un Thomas Ramos, c'est l'égal de Ntamack, de Dupont à Toulouse, enfin pour ma part, je pense. Il aura 32 ans l'été prochain, c'est peut-être ça qui est différent aussi. Et je pense que c'est une conséquence directe des changements du salary cap. Certains diront aussi que Toulouse se met au diapason après avoir été sanctionné plusieurs fois ces dernières années. Mais du changement de salary cap, on rappelle que le crédit accordé à la masse salariale par international eh bien, est dégressif maintenant à partir de cette année. Avant, c'était 180 000, 190 000 euros de plus dans ce plafond de masse salariale par international. Donc vous imaginez que le nombre d'internationaux du Stade Toulousain, ça pouvait faire 2 millions d'euros en plus. Hein, ça pouvait faire un 13 millions d'euros de masse salariale. Et là, maintenant, c'est dégressif. On l'a déjà expliqué. Donc ça va partir de 215, ça descend 205 et ainsi de suite. Donc ça fait... Il faudra calculer ça, la moindre possibilité pour le Stade Toulousain d'avoir plus de contrats, d'avoir un contrat plus important. Les trentenaires, c'est souvent comme ça, hein, décider que les trentenaires, c'était moins 25% sur les prolongations à un moment. Eh bien, je pense que Thomas Ramos, ça a coincé au niveau des négociations. Je pense que le Racing est arrivé très fort, très ambitieux pour essayer de shipper Thomas Ramos. Et que lui, c'est... Alors, il y a eu un beau communiqué, hein. On va faire la meilleure saison ensemble, on se quitte comme ça. Je ne suis pas sûr que dans les coulisses, voilà, tout soit si beau, hein, si rayonnant. Mais c'est un gros coup, je pense, parce que moi, ouais, je pense ça. Que d'aller chercher Thomas Ramos comme ça, dans son équipe, ce gagnant, ce grand joueur, même si... Et en plus, ça va être un Thomas Ramos à l'après-Coupe du Monde en Australie, qui, on peut dire, arrêtera certainement les Bleus. Donc, il sera 100% pour son club.
Non, mais et puis, c'est un Thomas Ramos qui arriverait en étant... la star, la pierre angulaire du Racing 92, on l'imagine, ce qui aujourd'hui au milieu des galactiques du Stade Toulousain, malheureusement, même s'il a un rôle important, hein, il a toujours eu un rôle important, mais il a un rôle partagé, un leadership partagé forcément avec
sur les dernières
Dupont,
années,
avec
c'est le rôle le plus important.
Ouais. Oui, bien sûr.
Non, il est là, il n'a pas été blessé.
Bien sûr.
Moi, Julien, parce que Wilfried, il a dit quelque chose d'important. Il a dit, toujours. C'est l'égal de Romain Ntamack et Antoine Dupont. Et ben moi, je crois que c'est bien ça le problème. C'est que pour moi, il était le troisième dans la hiérarchie. Et en termes de masse salariale, je pense qu'Antoine Dupont et Romain Ntamack, de fait de leur âge et de leur notoriété, ont été valorisés et que Thomas Ramos aurait peut-être aimé et à juste titre être valorisé peut-être autant qu'eux. Et je pense que Wilfried l'a expliqué qu'à Toulouse, il y a cette politique des trentenaires. D'ailleurs, ils l'ont payé cher, et après Noves, où les trentenaires avaient été tous prolongés pour très cher et qu'ils ont du coup cette politique-là aujourd'hui, les trentenaires, tu réduis le salaire. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, le salary cap, ça fait peur à tous les clubs, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais on voit aussi que l'Union Bordeaux-Bègles, la prolongation de Biel-Biarré, engendre des difficultés pour recruter les joueurs, parce que tu peux plus empiler les stars à cause des salaires. Et je pense qu'ils ont fait comprendre à Thomas Ramos qu'ils pouvaient pas lui donner autant qu'à Antoine Dupont ou qu'à Romain Ntamack, et que Thomas Ramos, et il a raison, c'est l'égal de Dupont. Et au Racing, on lui a dit, tu seras le numéro 1 dans notre équipe, à mon avis.
Mais c'est le principal artisan des titres, des finales depuis 2019.
Il a tout fait accepter la dernière, avec François Cross.
Effectivement, il avait été blessé. Il a toujours été sur la feuille
titulaire.
De match, titulaire jusqu'à la dernière.
Souvenez-vous de nos débats de l'année dernière, hein, sur est-ce que c'est pas aujourd'hui le meilleur joueur du top 14, même le meilleur joueur du monde, hein, Thomas Ramos. Alors aussi parce qu'il y avait eu les saisons difficiles de Antoine Dupont. Mais
après voilà, il a plus de 30 ans aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'il est pas aussi payé qu'un Dupont ou qu'un Ntamack. Mais je pense que Wilfried le dit souvent, c'est quelqu'un, il a un ego surdimensionné, Thomas Ramos. Et à juste titre, c'est un compétiteur hors pair.
Un champion, t'es comme ça, en fait. Souvent.
Exact, mais c'est normal. Et je pense que quand t'arrives aux négociations et qu'on te dit, ouais, tu auras un peu moins qu'un Dupont ou qu'un Ntamack, je pense que ça fait un peu mal à ton ego. Et que quand le Racing arrive en disant, t'auras plus qu'eux, ils disent, ok, je vais au Racing. Et puis, il y a le challenge de dire qu'il peut gagner ailleurs aussi.
Non, mais exactement. Tu peux, t'imagines, s'il est champion avec Toulouse cette année, il va au Racing à l'année suivante et il est champion au Racing. Ça le positionnera dans l'histoire encore différemment, peut-être, Thomas Ramos. T'as dit tout à l'heure, même lui, peut-être, il ne le voyait pas venir.
Je pense que ça s'est décidé sur les dernières semaines de la saison. Peut-être,
c'est-à-dire que toi, quand la saison se termine, tu joues Stade Toulousain au quotidien.
Je crois pas un instant. Si
pour toi, Thomas Ramos, il est là.
Je crois pas un instant. Je pense qu'il s'est rendu.
Et à Toulouse aussi, tu penses qu'il n'y croit pas un instant?
Ah, peut-être qu'ils ont été.
Hugo Mola.
Voilà, dans les. Ouais. Non, mais. À Toulouse, on va passer un message en disant. Ouais. Regarde l'offre du Racing, quoi, qui est peut-être un peu surdimensionnée pour quelqu'un de cet âge. Et je pense que on doit pas voir Thomas Ramos partir avec le sourire à côté toulousain, quand même, parce que on n'est pas habitué à ça.
Mais alors, pourquoi? Pour ce que ça représente.
Mais il faudra qu'on suive Wilfried. Il va falloir qu'on suive les dossiers gelons chez François Cross, du coup.
Bien
pour
sûr.
Savoir est-ce que vont eux prolonger, qui sont eux aussi des trentenaires, eux aussi des cadres du vestiaire toulousain depuis 2019. Et quelle est la politique, où est-ce que des clubs vont se dire on peut les attaquer?
Mais
est-ce
exactement.
Qu'aujourd'hui, t'es Montpellier, tu te dis François Cross, on peut l'attaquer à un salaire que Toulouse ne pourra pas s'aligner à cause des contraintes du salary cap. Et François Cross réfléchira à se dire, est-ce que je peux aller ailleurs ?
Non, mais tu crois ça, Wilfried ? Ça peut être le début d'un... Parce que là, effectivement, quand on a dit tremblement de terre, c'est parce que... Non, mais... Est-ce que ça peut être le premier étage d'un démantèlement de ce stade toulousain, qui est peut-être la meilleure équipe de tous les temps,
hein ? Ah, mais ils vont devoir s'adapter. Ils vont devoir s'adapter avec le... Parce que, bon, il y a les trentenaires, enfin, ça sera difficile. Baye et Aldeguerri ne devraient pas être prolongés. Il y a tout, c'est surtout toute une génération là, qui va... C'est un virage pour toute une génération. Alors, vous imaginez depuis 2019. Voilà, là, ils sont à 4 titres de suite, mais il y en a 6 en tout depuis 2019. Et donc, vraiment, 2027, cette fin de saison marque un grand tournant pour cette génération. Et c'est déjà énorme ce qu'ils ont fait durer là, toutes ces années. Ben, ce sera un grand défi de continuer à le faire avec leurs jeunes, justement. Mais voilà, ils parlent de Cross, de Jelonche, je vous dis les piliers. Bon, ce n'est pas un trentenaire, mais je pense qu'ils feront l'effort. Il y a Méafou aussi, qui est en fin de contrat. Ils peuvent être attaqués, bien sûr.
Donc ça peut être le début de quelque chose, effectivement. Donc on rappelle, il va rester donc une saison, la saison actuelle. Thomas Ramos, c'est un peu curieux quand même, hein, ce genre de situation
ça,
à chaque fois.
Le rugby, c'est comme ça.
Non, mais bah, attends.
Laurent Travers et Laurent Labitte étaient à Castres, ça a fuité qu'ils partaient au Racing. Et
bien
dès
sûr.
L'automne, on savait, ils ont été champions de France avec Castres avant de partir au Racing.
Et on n'a aucun doute sur le professionnalisme de Thomas Ramos. Mais voilà, c'est un joueur qui a une telle importance... Enfin, je sais pas, en NBA ou dans les sports américains, on appelle ça un franchise player. Mais c'est un joueur qui a une telle importance que comment on peut imaginer sa saison, en fait ? Ça va forcément, je sais pas, toi, au quotidien.
Mais ça va être le roman de la saison.
Voilà, c'est ça.
Et y compris au mois de juin l'année prochaine, quand ils seront en phase finale, parce que je pense pas que Toulouse va louper une place dans les six premiers. Ils le font pas trop ces dernières années.
Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le protagonisme qu'il va avoir cette saison ? Est-ce que on va pas faire plus jouer encore Kinghorn, je sais pas, par exemple, que Ramos ? Est-ce qu'on va pas construire un peu plus sur la saison prochaine ?
Mais lui, il va se mettre un point d'honneur à terminer tout en haut avec Toulouse. Et il va tout mettre. Mais surtout mais je vous annonce, sans être présomptueux. Grande saison de tous les internationaux cette année là. Il y a le voyage en Australie dans la foulée. Ouais. Donc je vous fais le pari que tout le monde va être à bloc cette année. Il va y avoir des grandes saisons de beaucoup de joueurs qui veulent partir en Australie. Ben non mais et Thomas Ramos va être en feu jusqu'en juin prochain et ça va être le roman du mois de juin l'année prochaine quoi. Finir comme ça, partir tout en haut. Voilà, avec des pleurs et voilà.
Et je te dis ça aussi par rapport à ça.
Ça n'a jamais été fait, 5 titres de suite en plus.
Bien sûr.
Mais voilà, là, les Toulousains, ils ont déjà leur programme pour cette année.
Je te disais ça aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Je trouve très intéressant sur Toulouse, ils ne sont pas habitués à ce genre de situation. Qu'on les quitte en fait. On les quitte comme ça quand on a un joueur de ce prestige-là. C'est ça.
Vincent Clerc, il l'avait décidé.
La rupture, c'est
Michalak, il l'avait décidé.
En
fait, c'est lui qui
l'a décidé. Il l'avait décidé. Skrela, il l'avait décidé. Voilà, ça arrive pas souvent, c'est vrai.
C'est un séisme,
juste pour
évidemment,
finir sur ça, bien. Wilfried, finalement, ils ont bloqué les joueurs qu'ils voulaient bloquer. Tu parlais de Méafou, mais regarde, Flamand, pour le coup, qui arrive en fin de contrat, ils l'ont verrouillé en cours de saison. Donc je pense qu'ils savent les Toulousains où c'est qu'ils vont. Alors évidemment, c'est un séisme, mais bon. Alors ils sont peut-être surpris que Ramos, mais ils ont verrouillé les joueurs qu'ils avaient besoin de verrouiller. Ils savent qu'ils ont une jeune génération qui arrive, qu'il va falloir qu'ils fassent monter. On a vu l'arrivée de Gourgue, les talonneurs qui arrivent. Mais je pense qu'ils ont verrouillé les joueurs importants à verrouiller. Donc je pense que Flamand, pour eux, c'est un joueur cadre, un joueur qui va s'inscrire dans l'avenir.
C'est
ils l'ont bloqué. Tamac, c'est fait.
Sûr.
Donc voilà.
Le plan de succession.
Et donc, je pense que Méafou, il s'interroge à mon avis aujourd'hui, de savoir est-ce qu'il garde un Méafou ou est-ce que.
Je pense qu'ils vont faire l'effort quand même.
Oui, mais bien sûr. Mais je pense que c'est dans la réflexion de se dire est-ce qu'un Méafou.
Mais ça sera peut-être au dépend d'un Jelonche ou de même si bon. Voilà, Jelonche, sa compagne joue au rugby. Au stade toulousain, enfin voilà, il y a vraiment un côté.
Ça veut dire quelque chose pour lui.
Identité, ouais, Toulouse, ouais. Racine, voilà. Mais il y a des questions qui vont se poser.
Non, mais surtout, ça veut dire que, parce qu'on a parlé de Ramos, il y a plein d'autres cas qui peuvent un peu pourrir, le mot est peut-être un peu fort, mais la saison du stade toulousain sur l'environnement, en fait. Est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là, est-ce que je suis impliqué, est-ce que je suis pas impliqué, sur l'année la plus importante, peut-être, celle de l'histoire, vraiment, pour faire ce qui n'a jamais été fait à Toulouse.
Le salary cap bouscule le stade toulousain depuis quelques mois, l'actualité du salary cap.
Non, mais voilà, c'est vrai, c'est une incidence totale et on en a parlé depuis des mois et des mois ici entre les poteaux et on en voit un résultat. Bon, voilà, évidemment, on était un peu obligé d'en parler, hein, Thomas Ramos, ça nous a tous agités cet été. T'étais en vacances, toi, Wilfried, quand t'es arrivé ?
Oui, non, j'avais une première journée de reprise, mais dans un autre.
Et puis j'étais plus en vacances.
Oh mince.
Bon, il s'est passé des choses quand même dans ce mercato du top 14 qui reprend dans moins de 3 semaines donc pour la reprise du championnat. Une question un peu générale peut-être déjà, les gars, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, là, ils vont reconnaître leurs équipes en début de saison où il y a eu énormément de mouvements.
Il y a pas mal de changements. Hein. De
mutations.
Non, Julien, d'accord.
Oui, mais tu vas reconnaître, c'est des changements à la marge dans les équipes. C'est des petites touches. Aucune équipe des 15, à part peut-être Perpignan, qui a recruté vraiment un peu plus large. Non, mais à Montpellier. Van de Promu, mais le Montpellier section, la première journée de top 14, sur les 30 qui vont démarrer, il y en aura peut-être 25 ou 24 qui étaient titulaires la saison dernière. C'est des recrutements à la marge. Aujourd'hui, les effectifs liés au salary cap.
Oui, tu peux pas faire des folies, quoi.
Non, mais en fait, là, ils ont des plans sur déjà 2-3 ans de recrutement. Là, ils travaillent déjà sur le recrutement de la saison prochaine. Donc, ils ont aujourd'hui des effectifs sur 2-3 ans. Bordeaux, c'est aussi à la marge. Donc, en gros, tu te renforces sur les points faibles que tu as ciblés sur la saison précédente. Donc, il y a évidemment des mouvements dans tous les clubs. On peut compter, alors, excepté Toulouse, où il y a une arrivée en général par saison. Mais en gros, les clubs de top 14, Georges, c'est entre 10 départs et 10 arrivées. Mais pas 10 titulaires en puissance. Hein. C'est aujourd'hui, tu as 42 et 50 joueurs qui jouent dans une saison. Donc, tu te dis que c'est un quart de l'effectif qui est renouvelé.
On précise aux gens que les mutations officielles sont ouvertes du 1er avril au 30 juin. Donc, ce qui vient de passer, en fait. Mais là, en ce moment, il y a des promesses, des avenants qui sont signés déjà. Les gros contrats, les plus gros contrats. Ben regarde, Thomas Ramos est sorti début août.
Mais ça se joue là.
Dans l'été, septembre, c'est les plus gros contrats en fait qui sont gérés.
Léo Colli à Montpellier avait été signé le mois de juillet l'année dernière. On savait qu'il allait jouer à Bayonne et il a fait une saison à Montpellier.
Mais ensuite, c'est officialisé entre 1er avril et 30 juin de l'année prochaine. Mais tout se joue toute l'année en rugby. C'est pour ça que ça fuite. Et les gens se disent, ouais, comment ça se fait? On sait déjà que l'année prochaine. Mais parce qu'en rugby, ça se prépare comme ça. Ça, c'est bien en amont et ça se gère comme ça.
Alors, les potos, vous allez noter le mercato, même si on a compris, voilà, il n'y a pas de révolution, mais il y a quand même des évolutions intéressantes dans les différents clubs de top 14.
Et juste pour finir, on ne parle pas de transfert parce qu'au rugby, la majorité du temps, ils vont au bout de leur contrat et ensuite, ils partent ou ils prolongent dans leur club. Ça peut arriver, mais c'est assez rare, des rachats de un an, voire deux, mais c'est plutôt rare. Voilà, il me semble que Paul Coste, il lui restait un an à Toulouse avant de partir au Racing, c'est racheté par le club et ça rentre dans le salary cap aussi. Donc généralement, les rugbymen vont au bout de leur contrat.
C'est toujours important d'être pédagogique sur cette séquence-là parce que c'est jamais forcément très clair. Parce que voilà, on a envie de faire des comparaisons avec. Voilà. Oui, mais c'est un peu comme au vélo par exemple, où même s'il y a de plus en plus de transferts aujourd'hui dans le peloton également. On est bien en train de parler de rugby entre les poteaux. Les poteaux, vous allez noter le mercato du top 14 parce qu'il y a quand même eu des transferts, des mutations impactantes dans des équipes. Quel est le gros coup? Quel est le gros coup des poteaux? Tiens, on va commencer par toi, Will. C'est quoi ton gros coup réussi par une équipe?
C'est un joueur qui m'impressionne depuis longtemps. C'est Tom Willis. On avait Jack Willis, meilleur joueur de la saison dernière, troisième ligne du Stade Toulousain. Et je mets un petit billet pour qu'il soit meilleur joueur cette saison encore, avec la saison qu'il a fait, Jack Willis. Eh bien, on va remercier papa et maman Willis, parce qu'ils sont tellement forts qu'il y a Tom Willis, son petit frère de 2 ans. Mais les gens le connaissent, hein, Tom Willis. Et on fait bien les choses bien dans la famille, parce que Tom Willis c'est le meilleur joueur de la Premiership anglaise de l'année dernière. Voilà, troisième in-centre, déjà passé par l'UBB en 2022, troisième in-centre des Saracens, donc dans l'équipe type évidemment anglaise, 2 années de suite. Hein, c'est le seul qui a été dans les nominés 2 années de suite. Aucun joueur n'a eu autant à la fois de ballons portés ou autant de défenseurs battus que Tom Willis, qui a débuté tous les matchs de championnat de Premiership. Alors, il y a moins de journées, hein, ils sont 10 clubs en Premiership. Et en Champions Cup, 30 défenseurs battus, une stat en Champions Cup au passage, alors que son équipe a été éliminée en 8e. Derrière Jalibert, 38 défenseurs battus pour Jalibert dans la campagne, mais devant Gaël Dréhan, quoi. Il est en train d'ouvrir un ailier. Voilà, c'est 1m92, 120 kilos. c'est voilà, c'est pour moi, on parle de game changer.
Ouais, hein, des joueurs qui font la différence, ouais, qui te font passer un palier peut-être.
Attention à Tom Willis.
Ah ouais, je pense qu'il peut.
D'ailleurs, on en reparlera, mais passer un échelon dans l'année. Mais Marco Gazzotti, le jeune numéro 8, est en fin de contrat et c'est sa dernière de contrat avec l'UBB. Là, arrive dans ses. Lui, il peut être attaqué. L'UBB peut être attaqué sur un joueur comme ça parce que on lui met un Tom Willis dans les pattes. Tom Willis, c'est un titulaire en puissance.
Ouais, ouais, bien
sûr. Ils le font pas venir pour le faire jouer remplaçant. Hein. Il est monstrueux et le Willis versus Willis là, Toulouse-Bordeaux, c'est génial comme
en tout cas c'est un vrai renfort très clairement qui fait progresser l'UBB.
C'est un monstre qui arrive à l'UBB.
On rappelle l'UBB qui ne s'était pas qualifié pour les barrages hein, qui est resté à la porte des phases finales malgré le fait qu'ils sont allés chercher un deuxième titre européen cette année. Willis, il faisait partie aussi de tes gros coups hein, Julien, je crois hein.
Oui, évidemment, mais parce que ça fait partie des, c'est un international anglais, et puis on sait tellement comme il est fort son frère Jack Willis que Tom Willis fait évidemment partie des grosses pioches de ce top 14. Moi, j'avais choisi Hugh Jones, le trois quarts centre écossais, qui est peut-être la paire de centre la plus efficace au monde avec l'Écosse, avec Tupouloutou. Au centre, on rappelle à quel point ils ont pu faire mal à l'équipe de France d'ailleurs lors du dernier tournoi des destinations. Hugh Jones, ça va très très vite, des courses tranchées. Une science de l'attaque exceptionnelle, Lions britannique, plus de 60 sélections avec l'Écosse. Et puis ça, c'est des joueurs, tu sais, qu'on frisson du tournoi à destination. Tu sais, quand t'affrontes l'Écosse, tu sais qu'en face il y a Hugh Jones, et ça fait partie des joueurs vraiment très 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 forts qu'on suit depuis plusieurs saisons. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs top 14 qui l'ont tenté.
Tu le vois arriver en France, tu dis ah c'est bien, je l'aimais bien les. Ouais. Je le voyais.
Le MHR l'avait
taillé le tournoi à destination. Voilà, Hugh Jones,
le MHR avait tenté
sûre,
de le faire d'ailleurs. Ouais, le MHR avait tenté de le faire la saison dernière, ça s'était pas fait. Mais oui, c'est valeur sûre du tournoi à destination, valeur sûre internationale. Et puis ça va renforcer un poste de centre où ils étaient peut-être un peu en difficulté pour épauler le jeune Kowi. Voilà, je trouve que c'est un recrutement très intelligent de la part de Toulon, Hugh Jones. Après voilà, c'est toujours l'adaptation. Mais pour le coup, les Écossais sont quand même globalement des joueurs qui s'adaptent assez vite au championnat français. On en a plein des exemples. On en parlait tout à l'heure, mais Blair Kinghorn du côté de Toulouse. Beaucoup des Écossais se sont très vite acclimatés au championnat français. Ils ont du mal un peu avec le rythme parce que évidemment, le championnat écossais est moins intense que le championnat français. Mais c'est des joueurs qui s'adaptent très très vite et qui font souvent, qui rendent souvent des satisfactions au club. Donc Hugh Jones, c'est vraiment une très très bonne recrue pour le RCT.
Jones à Toulon, Willis à Bordeaux, l'autre Willis. Donc on a compris. Enfin, ça montre surtout encore une fois, hein, bon, c'est plus approuvé du tout, mais le pouvoir d'attraction de ce top 14, bien sûr, de pouvoir attirer des garçons qui ont été impactants, notamment sur le dernier tournoi de destination et que le monde entier du rugby voit évidemment. La recrue, les poteaux, maintenant, qui est plus un pari pour vous, dont le résultat reste un peu à déterminer, à définir, on va dire celui qui est peut-être un peu moins une évidence, celui qui doit un peu plus confirmer. Julien, tu vois qui, toi, parmi les recrues?
Alors, c'est dur dans ces cas-là, mais à confirmer, c'est parce que je trouve que la section a fait un pari, mais qui est un pari audacieux et qui sera sûrement gagnant. C'est le jeune arrière de Vannes, Joachim Sangakuo, international français des moins de 20 ans, qui a été élu meilleur joueur du dernier tournoi des destinations des U20 remporté par l'équipe de France en faisant le Grand Chelem. Et lui s'est annoncé comme un phénomène et il va rejoindre une ligne de trois quarts très jeune avec les Atisokpe, les Grand Didier, les Harfeuille, les Gaëton, les Broboiry.
Il n'y a pas beaucoup de place quoi.
Ouais, non, mais je pense qu'il va avoir une ligne de trois quarts très jeune, 20-21 ans de moyenne d'âge, et je pense qu'il peut absolument s'épanouir dans le projet palois. Mais il va y avoir beaucoup d'attentes autour de lui parce que on en a beaucoup parlé, que c'est une jeune pépite de notre formation française. Voilà, il sort d'une bonne saison à Vannes aussi. Il aurait pu rester à Vannes pour accompagner Vannes en montée en top 14. Il a choisi le pari de la section paloise et là, pour le coup, Piqueroni est pour beaucoup. Voilà, voilà, on attend beaucoup de lui. Il est jeune, alors il ne faudra pas lui mettre de la pression. Mais retenez son nom parce que je pense qu'on va en entendre parler. Joachim Sangakuo.
Joachim Sangakuo. J'aime bien cette équipe, la section paloise, là, cette espèce de jeunesse, c'est la dynamite, quoi.
Piqueroni, voilà.
Ah ouais.
Sélectionneur des U20, champion du monde ou champion du monde. C'est vrai qu'il a cette fibre-là, d'éducateur, enfin, de faire grandir il y a des entraîneurs au foot, ça, qui sont pris comme ça, justement, pour leur
formateurs, accompagner la progression.
Voilà, des jeunes joueurs. puis Kironi fait un travail là-dessus, ouais, c'est magnifique.
Non, mais c'est vrai que ça donne envie de les voir, peut-être. Alors peut-être moins pour le grand public qui accroche de temps en temps les matchs top 14, mais on va dire ceux qui ont un regard un peu plus permanent, tu dis, mais voilà, c'est en fait, je regarde le rugby de demain.
Broboiry, quoi.
Broboiry, exactement, voilà. qui est arrivé, qui a défoncé la porte du 15 de France.
Qui est là pour un moment, je pense.
Ouais, non, mais qui est arrivé surtout comme si le mec avait été là depuis des années, en fait. C'est la capacité de ces joueurs maintenant.
C'est le réservoir du rugby français aussi qui est énorme.
Non, mais c'est aussi pour ça, Julien, tu parlais de ce jeune joueur qui arrive donc à Pau. On a l'impression que maintenant ils sont tellement câblés différemment, les mecs, ils arrivent et ils sont capables. Bah, et alors, je suis à la section paloise, je suis en top 14, qui est maintenant Pau, une équipe qui représente plus quelque chose qu'il y a quelques années encore, donc c'est devenu une place forte. Donc ça va être intéressant. Ouais, qu'il faut que je fasse attention. Non, mais Will, t'es d'accord, toi, sur ce pari
C'est un gros coup. En
ouais, ouais,
c'est pour toi, c'est un gros coup, clairement. Ben, oui, parce que c'est un des paris sur l'avenir. Mais regarde,
ça montre l'attractivité de Pau aussi.
Regarde les mecs viennent pour Pau. La trajectoire d'Atisogbé, de Gaëton, de Broboiry, d'Arfeuil, c'est. Voilà, les mecs sont au rassemblement de l'équipe de France. Et qui aurait pu le dire il y a 3-4 ans, quoi. Donc c'est, voilà, rendez-vous dans 3 ans, ou 2-3 ans. Ça dépend comment il passe le gap, ce joueur.
Non, mais c'est vrai que c'est bien, ça montre l'attraction des projets aussi et des hommes comme Piccheroni pour attirer des profils pour se développer, comme le fait la section paloise. Le pari pour toi, Wilfried ?
J'en ai deux, un peu diamétralement opposés, parce que c'est à Castres, à Mitch Watson, le troisième ligne écossais. C'est un ratier écossais, quoi, petit troisième ligne, meilleur joueur du tournoi 2021, du tournoi destination 2021. Hein, sauf qu'il a été sélectionné depuis 2023. Alors il profite, entre guillemets, je sais pas si c'est pas le mot, peut-être, de la grave blessure de Dalton Papali, le troisième ligne.
Qui aurait pu être l'une des recrues d'ailleurs dans cette.
Phare. Qui s'est rompu le tendon d'Achille en préparation. Ouais. C'est la recrue phare du Castres Olympique. Voilà, rupture du tendon d'Achille. Donc, ils font un pari sur Amish Watson. Mais bon, peu utilisé par Leicester l'an passé. Moi, voilà, ça reste un joueur que j'aime bien, moi. C'est chiant. Chiant dans les rucks, gros défenseur, et qui va coller parfaitement avec l'état d'esprit du CO, de ce club village, voilà, famille. Donc, on verra ce que ça donne sur le terrain.
Oui, c'est pour ça que tu dis que c'est un pari quand même. Tu le mets dans cette catégorie-là.
Bah, il faut qu'il confirme à 34 ans. Voilà. Et il y en a un deuxième, donc je vous disais, c'est pas du tout pareil. C'est Paul Coste, en fait. Paul Coste qui. C'est pour pas que la comète s'éteigne. Paul Coste, il est arrivé, tu parlais de défoncer la porte, il était champion du monde avec les U20, justement avec cette génération-là, en 2023. Il a fait une saison incroyable, une première saison incroyable avec le Stade Toulousain, au point de finir titulaire en finale de Champions Cup dans l'incroyable match face au Leinster à Tottenham. Julien, tu t'en rappelles. Et il était dans le groupe à chaque fois en phase finale. Mais les deux années, il a fait 22 matchs, puis 21, puis 17, et surtout les deux dernières saisons, il a pas été dans les groupes en phase finale du Stade Toulousain. Donc c'était une vraie régression, enfin une vraie, c'est un peu fort peut-être, mais voilà, avec un peu de déchets, des approximations, des petites erreurs, des petites erreurs d'inattention qui se sont enchaînées, et voilà, hein, à Toulouse, quand ça arrive comme ça, bah, on est sanctionné, et donc mais c'est très bien, je trouve, pour un Toulousain comme lui, quand on a gagné à Toulouse, bah, de partir ailleurs, voir si ça peut marcher ailleurs, c'est un vrai défi. Bon, c'est au Racing, hein, ça va, hein, c'est un club ambitieux aussi.
Ah,
hein.
Oui, bah, ils ont...
mais,
sont pas mal.
Je pense que son style créatif au milieu des Abossi, Twisova, Sam James, au milieu des biceps, Paul Coste, il peut trouver la place, mais il sera attendu. Voilà, maintenant, après une ou deux saisons un peu plus moyennes, il est temps pour lui de, voilà, de montrer qui il est, quoi.
On a eu vos gros coups, les gars, vos paris sur ce mercato du top 14. Top 14 qui reprend dans moins de 3 semaines, je rappelle. Ce sera à vivre sur RMC, évidemment, avec vous tous. On va vous retrouver sur les différentes pelouses du championnat avec grand plaisir. On va vous retrouver, on va vous écouter. Mais les gars, s'il y a une recrue qui vous fait payer votre abonnement à Canal+, qui vous donne envie d'écouter Eric Bail, et vous aussi, les gars.
Nous, c'est gratuit. Hein.
Non mais, en tout cas, s'il y a une recrue
qui donne envie d'appuyer sur on pour écouter RMC.
C'est la recrue frisson. Tu dis, ah, ce week-end, je suis dans le coin, je paierais bien 60€ ma place là pour aller le voir.
C'est Vouris, l'ailier de l'USAP. Ah ouais, je sais pas comment l'USAP a réussi à faire ce coup-là. L'international néo-zélandais, All Black, meilleur marqueur de l'histoire du Super 12 avec les Crusaders.
Mais ils ont fait ce coup alors qu'ils étaient pas sûrs de rester en top 14.
En plus, c'est ça.
Ça remonte en plus.
Oui, c'est ça. Ça a été fait en janvier, même quand ils avaient pas une victoire. On avait même cru au départ que c'était une blague. On s'est dit, mais comment ils ont pu recruter Sevouris, qui est l'un des meilleurs ailiers des dernières années des All Black. Je vous l'ai dit, meilleur marqueur des Crusaders et qui a déjà traversé 3 fois le terrain. samedi soir avec l'USAP du côté de Biarritz lors du match amical.
Et à traverser pour
oui, pas pour demander l'heure à quelqu'un.
Non, c'est non, une expression, il a traversé avec le ballon.
On traverse le terrain, on passe tout.
Il a marre, auteur d'un essai, il en a donné un autre. Non, mais lui, je pense que ça va être de la dynamite.
Il a vu un pote de l'autre côté du terrain, il a traversé le terrain. Enchaînons.
Alors pour le coup, je parlais tout à l'heure des Écossais qui s'adaptent bien. Les Néo-Z, c'est qui tout double pour le coup dans les clubs de français où ça marche du feu de Dieu ou parfois ils ont du mal à s'adapter. Mais c'est si Vouris fonctionne et qu'il s'adapte bien, je peux prendre le pari qu'il sera pas loin d'être meilleur marqueur de notre championnat à la lutte avec Vainicolo sur une saison. Parce que
c'est un peu pareil ouais, dans les courses à louper un peu. C'est
oui,
un peu
c'est
du Vainicolo comme ça. Là.
Il va être capable sur. Pour le coup, tu parlais d'un joueur frisson, ouais. De traverser le terrain tout seul, même si l'USAP, un match où il perd de 30 pions, lui, il peut prendre le ballon et traverser tout seul, quoi. Donc, lui, il va apporter du frisson. Après, est-ce qu'il va s'adapter au jeu de l'USAP, je sais pas. Mais voilà, un joueur frisson très, très fort.
Il m'a excité, là, effectivement, Julien. un nouveau joueur à Perpignan, rugbystiquement parlant, évidemment. Will, toi, le frisson. Qui va te donner un frisson? Qui te dit? J'avais pas forcément prévu de voir cette équipe à fond cette année, mais peut-être que je vais aller les voir.
Et ben, c'est un joueur du Stade Toulousain.
Exactement.
Comme ça, je vais pas trop loin.
Exactement. Non, mais c'est Vouris, oui, bah, il l'a choisi. J'aurais pu le choisir aussi, évidemment. Et du coup, puisque j'ai déjà parlé du gros coup Tom Willis, bah, je vais vous parler de Tommaso Menoncello, le centre international italien, 23 ans, monstre physique, meilleur joueur du tournoi Destination 2024. 12 essais en 41 sélections, voilà un cheval. Milieu de terrain, tu vois, ça peut aider. C'est quoi, équipé pour monter dessus.
Yeah cheval, tu prends pas les places à l'hippodrome, Georges.
Non.
Viens au stade,
non, mais
pas l'hippodrome que tu vas.
Sur le dernier Italie-Angleterre, c'est lui qui amorce l'essai de la gagne avec 14. Une action de classe, pour ceux qui se souviennent.
C'est du polo.
S'il vous plaît.
Le mec, c'est lui qui agite les poteaux.
Oui, mais après, j'enchaîne, c'est ça, vous pouvez être professionnel. Et pour ceux qui se souviennent, c'est lui qui amorce l'action de la gagne face à l'Angleterre à Rome dans l'hiver, quoi. Il déborde tout le monde, il remet intérieur. Voilà, il y avait Toulon et La Rochelle qui étaient sur le dossier, quoi. C'est pour vous dire, il peut jouer 13, il peut jouer 12. Alors, si vous voulez, quand Chocobarès sera un peu fatigué d'aller défier la défense, on le mettra 12. Oh et puis autrement, donc un duo Chocobarès-Menoncello. Et puis autrement, on met Menoncello en 12 et Gourgue en 13, quoi. Donc, pour les
Barassi,
adverses.
Oh, ça va.
Plus voilà. Barassi, donc, oui,
Menoncello, Barassi, voilà. Genre, cette saison,
le milieu de terrain
ils
toulousain.
Ils ont perdu Ramos, mais quelle difficulté.
Le milieu
ils
de terrain toulousain. Avec Barassi, ouais, Menoncello, Chocobarès, Gourgue.
Chocobar à Menoncello, bonjour à Chris deux fois, quoi.
Donc, ouais. C'est très bon, ça. Il se pince les lèvres. Si vous le voyez pas, je vous le dis. Il est en train de se pincer les lèvres. Il est content de son coup. Ouais. Elle a quoi, ta Chocobar? Elle est au Menoncello. Ouais, allez. Faut aimer. Enchaîne avec ça.
Allez.
Bon, en tout cas, non mais moi je suis rassuré parce que Wilfried, je le vois hyper enthousiaste. Déjà, il a envie de voir son feuilleton de l'année avec Thomas Ramos à Toulouse et avec les autres.
On aura des choses à raconter.
Et en fait, t'es hyper ambiancé par Menoncello, donc c'est super. Et moi, du coup, j'ai des vannes pour accompagner ça. Donc autant te dire
c'est
que
le
tous les ingrédients sont réunis pour le bon retour des poteaux. Les gars, la recrue qui est un peu moins bling bling, un peu moins comme ça, poudre aux yeux, mais qu'il faut surveiller pour vous, Will.
Sam Twifua, le troisième ligne centre à La Rochelle, qui vient de Mont-de-Marsan, néo-zélandais. Moi, ça sent la bonne pioche. Il n'a que 23 ans.
Il est de l'île d'Oléron, Georges, il fallait bien qu'il parle à La Rochelle.
Ouais, oui. Non, mais celui-là, je l'avais à l'œil déjà. Il est passé par les États-Unis. Il est arrivé l'année dernière à Mont-de-Marsan, 1m88, 117 kilos. En fait, il va être doublure de luxe de Grégory Aldrit. En Pro D2, sa puissance, 24 matchs, 20 titularisations, 14 essais. Pour un numéro 8, 14 essais, c'est énorme. Et sur les 24 matchs, 13 fois, il a fait les 80 minutes. Donc, le mec a la santé et il pourrait faire mal aux défenses adverses. Il doit juste passer le gap Pro D2 top 14. Il y en a plein qui le font chaque année. Hein. Il y a plein de bonnes recrues en Pro D2 qui évoluent en top 14. Mais il sera précieux pour faire souffler Aldrit. Ou même le concurrencer, parce que je pense qu'en titulaire, il a sa place.
Julien, tu nous as cité aucun Montpellierin depuis le début. C'est quoi, t'as pas envie de retourner commenter les matchs il va être content, jeune Codulo, s'il nous écoute là. Hein, il va dire,
Non, Dimitri Delib, la recrue justement Montpellierin en provenance de Toulouse. On parlait tout à l'heure de Paul Coste, des joueurs qui ont souvent été dans les doublures, dans les rotations toulousaines et qui ont souvent fait d'ailleurs des très bonnes performances sur les périodes de doublons ou sur les débuts de saison. Et Dimitri Delib arrive, là aussi c'est un pari parce qu'il pouvait gagner avec Toulouse. Il a décidé de venir à Montpellier. Toulouse avait eu du mal à le lâcher. Il voulait d'ailleurs juste le prêter et arriva à conserver un droit sur lui. Mais Delib a décidé de prendre le pari de venir à Montpellier. C'est un joueur qui va pouvoir jouer à l'aile, qui va pouvoir jouer au centre. Wilfried parlait de Tuifoa, va falloir lui qui gère un peu ses joueurs souvent blessés. C'est des joueurs qu'on étiquette un peu comme ça, qui a du mal à enchaîner. Mais dans
c'est
le projet Montpellier,
mais qui a été ouais, freiné par des blessures. Mais c'est un vrai talent, Dimitri Delib.
Et s'il arrive à franchir le cap, il peut s'installer très vite à l'aile et avoir un Moustin Delib sur les ailes de Montpellier. Ça fait quand même encore des bons nœuds de tête pour Fabien Galthié, parce qu'entre les ailiers palois, les ailiers montpelliérains, les ailiers toulousains, on a des belles doublettes un peu partout, sans oublier Dréan du côté de Toulon. Mais voilà, Dimitri Delib, ça sera un joueur à suivre. S'il franchit le cap et il arrive à enchaîner les performances, ça sera un très bon coup pour l'OMHR.
En tout cas, je suis content pour vous les gars, parce que sur vos différents terrains, vous avez des joueurs que vous avez envie de voir et vous avez une réoxygénation dans vos effectifs, des équipes que vous suivez pour eh bien, se motiver tous ensemble à cette nouvelle saison. Le top 14 qui nous motive évidemment comme toujours avec peut-être un rendez-vous pour l'histoire pour les Toulousains notamment cette saison. Tu le disais tout à l'heure Wilfried, on est au bout du carnet de notes du mercato du top 14 des poteaux les gars. Si vous devez dire au bout de tout ça, on était dans les cas individuels là, les équipes, quelle est l'équipe qui a le mieux réussi son mercato, ses mutations?
Faut en dire plusieurs, je pense.
Tu veux te fâcher avec personne,
c'est non, ça, c'est
en,
pas
début
ça
de
mais...
saison, en début de saison faut faire attention, tu vas aller voir plusieurs
non,
équipes.
Non mais 2-3 c'est bien.
On va citer les 14 Georges.
Alors,
on
va citer toutes les recrues de tous les clubs et les départs. Non mais il faut en citer plusieurs. Moi, il a raison. Je trouve que Montpellier, c'est pas mal ce que Montpellier a fait par petites touches. Ils ont déjà fait une très belle saison et là, en finaliste, on garde la stabilité, c'est de prolonger tes joueurs. Et quand tu fais venir des Wardy avec son expérience, des Sébastien Bézi, des Adam Hastings, on n'en a pas parlé, Julien, à l'ouverture quand même, hein, international et écossais, Dimitri Delib, c'est de la plus-value à chaque fois. C'est...
Et puis moi, j'ai découvert Van Herden cette semaine.
Ouais. Alors
dans le profil bouché, comme Montpellier. Ils n'en avaient pas trop des bouchés, Montpellier, en deuxième ligne, des gros joueurs un
deuxième
peu physiques.
Sud-africain.
Du coup, ils en ont recruté là parce que ça leur manquait un peu de densité dans le pack. Donc là, ils ont pris un colosse de 2m05 qui saute en touche. Moi, la bestiasse. Là, ça va être solide encore ça.
En deuxième ligne, ils en manquaient pas. Donc voilà, je pense qu'il fallait que j'en parle, que La Rochelle a fait les changements dont ils avaient besoin. Ils arrivaient en bout de course dans un... tous ceux qui sont partis, Sclavi, Douglas, D-Lane, c'est des joueurs... Bon, Corrier moins, parce qu'il a beaucoup joué, mais Yaya West, voilà, c'est des joueurs vieillissants, sans leur manquer de respect. Ils avaient besoin d'oxygéner un peu le groupe. Et faut voir ce que c'est très important, mais Sione Ayo, le pilier droit néo-zélandais, il aura une place, un rôle prépondérant. Il va falloir qu'il réponde présent. Mais derrière, avec les deuxièmes lignes, Morat, le sud-africain, qui est un joueur qui joue aux Stormers, capitaine parfois des Stormers. On a McFarland qui fait Samoan, des Saracens qui fait deuxième et troisième ligne, que moi j'ai vu en Champions Cup face à Toulouse, qui a été monstrueux quand je l'ai vu sur ses matchs. Le jeune Thomas Adélaïde, qui est toulonnais, qui a été prêté à Colomiers finalement, qui a signé à La Rochelle, tout en ajoutant Tuifoa. Moala aussi, qui arrive au centre, moi, c'est un joueur que j'adore, qui est plutôt jeune, mais ça dépend si la santé, il peut faire ses 10-15 matchs, si sa santé le suit. Et David Krill, c'est un joueur méconnu, des Stormers aussi, un centre, mais qui est très créatif. La Rochelle a besoin de ça dans leur nouveau, depuis quelques mois, leur nouveau jeu. Et je pense que si ça fonctionne bien, ce recrutement sera une réussite pour La Rochelle, et La Rochelle pourra passer un palier par rapport à l'année précédente.
Julien, le bon élève du mercato pour toi?
J'avais Pau aussi, mais bon, ouais, on est d'accord avec Julien sur Pau.
Non, je vais parler de la section paloise.
Ouais. Tu dis pareil. Pas ce que tu veux dire, okay.
Non, mais sur leur petite touche. Si alors en plus, ils ont rajouté un peu de grinta à Argentine, parce que du coup, il y a deux Argentins qui arrivent et qui vont rejoindre Montoya et Issa, Santiago Grondona et Gonzalo Garcia, tous internationaux argentins. Donc ça veut dire malgré tout que
ça durcit le pack.
L'attractivité de la section,
en fait,
ça durcit le pack.
Oui.
Baptiste Pesenti en deuxième ligne, Bastien Wernthaifer. C'est des joueurs, voilà, que la section n'est peut-être pas forcément devant. Des durs au mal, qui vont aller un peu ferrailler, qui leur manquaient peut-être. Donc ça, ça va leur faire du bien.
Mais ça fait deux ans, Julien.
De joueurs qui,
ouais, ça, parce que tu rajoutes Montoya, Laclaya les derniers, Facundo Isa.
Facundo Isa, oui, bien sûr.
Ils savaient très bien que devant Piqueroni, que son pack doit être plus, comment on peut dire, plus montpelliérain.
Plus méchant et un peu plus, qu'on arrête de les cataloguer comme une équipe qui joue bien au ballon et qui se fait marcher dessus l'hiver quand il faut aller ferrailler, quoi. Donc une équipe qui ferraille. Donc la section paloise s'est renforcée. J'aime bien ce qu'a fait Toulon. On n'a pas parlé de Gaël Ficou, mais bon, Gaël Ficou, malgré tout, pour sa dernière saison, lui, on parlait de l'Australie.
Parce
mais
que
Gaël
ça fait
Ficou,
un moment qu'on le sait, donc c'est vrai que...
C'est ça. Mmh. Il vient se relancer. Rabah Slimani, c'est de l'expérience. Judicaël Cancorier, c'est un joueur de devoir qui peut faire 26 matchs dans la saison. On a parlé de Hugh Jones. Ils ont récupéré les deux petits frangins, Kele Taona, là, les deux joueurs de Brive, les internationaux de moins de 20.
C'est un bon mix.
Voilà, je trouve qu'ils ont... Ouais, je trouve qu'ils ont bien travaillé aussi les Toulonnais dans ce qu'ils ont pu faire à l'intersaison.
Juste Thomas Gallo, voilà, le pilier argentin à Lyon.
Oui.
Léota, il y a un ailier fantastique qui arrive au Stade Français. Voilà, il y a un trésiste aussi à Vannes. Enfin, il y a beaucoup. Messieurs dames, on n'a pas pu parler de tout le monde.
Oui, oui.
Edgelam, le centre néo-zélandais qui arrive à Clermont.
Ce que j'allais dire, c'est vrai. C'est... Christopher Yoss, il en pense quoi de son mercato?
Je sais pas, faut lui demander.
Oui, Julien.
J'en sais rien.
Je sais pas, il faut lui demander.
C'est bien, les gars, vous avez.
On n'est pas ta marionnette, genre. D'accord.
C'est bien, les gars, je vois que vous avez. Je sais pas, je sens qu'il y a des résolutions qui ont été faites pendant l'été.
Et on n'a pas parlé, mais j'aime bien aussi ce qu'a pu faire Bayonne. Alors, Bayonne, va falloir qu'il gère toutes les coulisses, et on sait que c'est un club qui n'est pas simple à gérer. Mais je trouve qu'ils ont recruté des joueurs aussi intéressants pour.
Il n'y a que des gagnants, en fait. Ça... Parce que tout le monde a réussi à faire.
C'est pour ça qu'on t'a dit qu'on allait citer tout le monde.
Ça va être encore une course aux 6 premières places, incroyable.
Ouais, bah c'est ça. Bah, en fait, parce que là, vous nous vendez un feu d'artifice, tout simplement, qui nous attend à partir du 5 septembre pour la reprise du top 14. Ça va être la folie. Avec les poteaux qui ont repris leur énergie là, vous avez vu, ils sont chauds, ils ont décidé quand même de se prendre au sérieux un peu plus cette année. C'est tout à votre honneur, les gars.
Bon, on n'est pas là pour déconner, mon genre.
Merci Philippe d'être venu comme ça, tu vas passer un petit un petit coup comme ça dans le studio. Wilfried met ses lunettes à l'envers, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter ce podcast, les amis.
Allez, c'est l'heure, je vous remercie. Bien gozé l'heure.
Ah d'accord, t'as mis tes lunettes à l'envers pour faire une imitation de Christophe Furios, donc c'est une mise en scène, en fait.
De dire au revoir aux gens, parce que là, c'est en bout de footing en plus là.
Cette année, il va falloir qu'on se filme un petit peu plus, les gars. Je vous le dis tout de suite. Il y a des mèmes à faire qu'on passe à côté quand même. Hein. On passe à côté de beaucoup de choses.
Et on embrasse nos auditeurs et nos auditrices. Et merci pour leur fidélité année après année. On est content de repartir une année pour eux.
Exactement. Restez à l'écoute. Il y aura les nouveautés évidemment entre les poteaux cette saison. La même bonne humeur.
D'ailleurs, il faut s'abonner. La même expertise. Des petites notes, des petits commentaires.
Des 5 étoiles en dessous.
Fais ton boulot, genre.
Wilfried Templier, il dit n'importe quoi et tout.
Il a gagné le quiz.
Il fait trop le chef. Wilfried Templier, il dit trop au présentateur ce qu'il doit dire. Et ben, ils auront raison, les gens. Allez, merci Julien Landry, merci Wilfried Templier.
Avec plaisir.
Restez connectés, évidemment, rmcsport.fr aussi pour toutes les dernières informations. Vous avez notamment un magnifique papier de Pierre Thévenet sur les meilleurs recrues du top 14. Il était beaucoup plus précis que vous. Allez, à tout de suite. Non, je ne rigole pas, à tout de suite. Restez à l'écoute sur RMC.
Salut.
Entre les poteaux.